Voici le journal d'Antoine Geoffin. Bonjour Antoine.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, le chamboule-tout à l'OM. Jacques-Henri Hérault est éjecté. Il n'est plus président, remplacé par Pablo Longoria. C'est la décision du propriétaire du club. Quant au nouvel entraîneur sur le banc de touche demain face à Lyon, ce sera Jorge Sampaoli. Les autres titres, Antoine.
Les agglomérations de Dunkerque et de Nice sous cloche. Quid des 20 départements dans le rouge. Décision la semaine prochaine, mais laquelle? Lesquels? Pas simple de trancher. On est vieux, mais on ne veut pas mourir. À Bordeaux, des retraités réclament le vaccin. Sans attendre, on l'entendra. Camouflet pour Vincent Bolloré. L'industriel breton devrait être jugé pour corruption au Togo. Il espérait échapper au procès en payant une amende. La justice dit non. Et puis à l'ONU, l'émotion hier de l'ambassadeur de Birmanie, 26 jours après le coup d'État de la junte. Les manifestations continuent dans le pays.
Un mot sur l'invité ce matin à 8h20, ce sera Jean Leonetti, maire Les Républicains d'Antibes, Juin-les-Pins dans les Alpes-Maritimes.
France Inter. Jacques-Henri Hérault ne s'est pas attaqué au groupe de supporters, il ne s'est pas attaqué à une ville ni à un club, mais à un peuple. Les mots sont durs, ce sont ceux des Dodgers de Marseille, l'un des groupes de supporters de l'OM, soulagé du départ du désormais ex-président de l'Olympique de Marseille. Il a été remplacé hier soir par l'ancien directeur sportif Pablo Longoria, décision du propriétaire américain du club Frank McCourt. Alexandre Vaux.
Dans le communiqué publié hier soir, le propriétaire américain de l'OM annonce l'ouverture d'un nouveau grand chapitre dans l'histoire du club. Une manière pour Frank McCourt de reconnaître que ses 5 premières années n'ont pas été à la hauteur des espérances. Un avis partagé par l'ancien gardien marseillais et consultant France Info, Jérôme Alonso.
Pas grand chose de très marquant parce qu'il s'est mal entouré dès le départ.
Notamment le choix de Jacques-Henri Hérault comme président du club. Mais Thierry, supporter historique bien connu sur les réseaux sociaux, n'oublie pas non plus le rôle qu'a joué Frank McCourt.
La deuxième personne qui est quand même responsable du club et qui a cautionné son travail depuis 4 ans, c'est quand même l'actionnaire majoritaire.
Le propriétaire américain va plus loin et annonce venir à Marseille rencontrer les supporters et les dirigeants locaux, dont peut-être le sénateur Jérémy Bacchi, méfiant sur la suite des événements.
J'attends de voir si le projet Agora OM de réduire la liberté des groupes de supporters qui a contribué aussi à mettre le feu aux poudres partira avec celui qui l'a initié.
Comme les rumeurs de vente du club incessantes depuis plusieurs semaines, dans le communiqué hier, McCourt rappelle que son engagement est intact et absolu pour que ce nouveau chapitre soit, je cite, un véritable succès.
Les Marseillais auront aussi un nouvel entraîneur sur le banc demain soir pour la réception donc de Lyon en championnat, l'Argentin Jorge Sampaoli.
Voilà, on dit bien Jorge Sampaoli, il est argentin. L'actualité, c'est aussi Nice et Dunkerque, les deux villes sous cloche, deux agglomérations confinées donc pour le week-end. Il s'agit de lutter donc contre le Covid-19.
Des mesures qui pourraient être étendues le week-end prochain à 20 autres départements où le virus circule fortement. Si l'épidémie ne faiblit pas, plus de 25 000 contaminations encore hier en France. Les préfets et élus locaux doivent se concerter dans les prochains jours. Pas simple de s'accorder sur la stratégie à adopter, Élodie Forêt.
D'un côté, les partisans de mesures de masse, comme Jean-René Lecerf, président du Nord, il prêche pour une échelle régionale. De l'autre, ceux qui veulent pousser la territorialisation à l'extrême, question de pertinence pour Mathieu Klein, maire de Nancy, qui explique « En Meurthe-et-Moselle, le sud du territoire est bien plus épargné que le Nord ». Dans l'Oise, la préfète a déjà fait une proposition, appliquer les mesures, là où le taux d'incidence est supérieur à 300 pour 100 000 habitants. Et quelles mesures, justement, la mairie de Paris a créé les mois, jeudi, en proposant un confinement de 3 semaines. Pourtant, ils sont nombreux à ne pas croire au seul week-end confiné. Inutile, juge François Grosdidier, le maire de Metz, qui envisage, si la situation ne s'améliore pas, de reporter la rentrée scolaire. Des élus qui, au-delà des restrictions, réclament des moyens accrus, plus de tests salivaires, plus de vaccins. Un maire travaille même à une hypothèse. Dans les départements en rouge, ouvrir la vaccination à tous.
La vaccination pour tous, mais eux ne demandent que ça, ils n'en peuvent plus, ne pas être vaccinés, ils le disent en déambulateur. À Bordeaux, une cinquantaine d'octogénaires ont manifesté hier devant leur résidence service senior. Contrairement aux résidents d'EHPAD, ils n'ont pas encore eu accès au vaccin. Reportage Stéphanie Scock.
On veut des vaccins.
Certains ont accroché des slogans sur leur déambulateur, d'autres se tiennent droit sur leur béquille. Pour les centenaires, on a sorti des chaises sur le trottoir. Ils sont ainsi une cinquantaine à bloquer la rue qui mène à leur résidence. Solange, 88 ans, en a marre d'attendre ce fichu vaccin.
Notre directeur a fait les premières démarches auprès de l'ARS à la mi-décembre. Aucune réponse n'est venue jusqu'à la fin janvier. Fin janvier, on nous a dit oui, vous aurez le vaccin, mais pas maintenant. Bref, on nous a un peu noyé le poisson. Début février, ah ben c'est différé. Invité éternel, hein, on ne sait pas.
Arcadie n'est pas un EHPAD, mais une résidence-service de copropriétaires. À ce titre, ils étaient censés être vaccinés en même temps que les pensionnaires de maisons de retraite. Et Jeanne, une des organisatrices de la manif, évoque une injustice.
C'est aberrant. Et je peux vous dire que la plupart des manifestants aujourd'hui n'ont jamais manifesté de leur vie. On veut quand même que la population sache qu'on n'est pas près de mourir, qu'on voudrait quand même avoir des relations avec nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, sans être obligé d'attendre la mort.
La préfecture de la Gironde promet de trouver rapidement des vaccins pour les 150 résidents d'Arcadie. Des doses pourraient arriver d'ici une dizaine de jours.
Reportage Stéphane Iscock, France Bleu Gironde. À Bondy, en Seine-Saint-Denis, un jeune de 15 ans est mort hier, abattu en fin de journée dans une maison de quartier par une personne qui a pris la fuite en scooter. La victime fréquentait les points de deal de la ville. L'industriel français Vincent Bolloré voulait éviter un procès, c'est raté. Le milliardaire pensait y échapper en plaidant coupable pour corruption et en payant 375 000 euros d'amende. Mais hier, une juge du tribunal de Paris a refusé de valider cet accord passé avec le parquet national financier. La magistrate estime qu'il est nécessaire que Vincent Bolloré soit jugé en correctionnel. Il risque jusqu'à 5 ans de prison, accusé d'avoir financé généreusement la campagne présidentielle du président togolais et d'avoir obtenu peu après, en 2009, la concession du port de Lomé.
En Birmanie, c'est une rupture spectaculaire 26 jours après le coup d'état de la junte dans le pays.
L'ambassadeur de Birmanie à l'ONU hier soir à la tribune, Ucho Motun, très ému en anglais, il demande à la communauté internationale d'agir pour faire cesser le coup d'état et protéger les civils innocents. Des trémolos dans la voix, nous vous l'avons laissé en version originale.
We need from the strongest possible action from the international community to immediately end the military coup, to stop oppressing the innocent people, to return the state power to the people, and to restore the democracy. Pidula digawa, yerawo, anyami.
Ucho Motun a terminé son discours les trois doigts levés vers le ciel, signe de ralliement des manifestants dans le pays. Malgré la répression de la police, ils ne veulent pas relâcher la pression. Juliette Verlin sur place pour Inter.
Alors que les manifestants se préparaient à une nouvelle journée de contestation, la police les attendait dans les rues dès 9h ce matin. À Ledan, au nord de la ville, les premiers groupes de manifestants ont été dispersés au gaz lacrymogène et dans le quartier de Minigone, la police est en ligne et barre l'accès aux grands axes. Dans toutes les petites rues avoisinantes, les habitants s'organisent, ils bloquent l'accès à la police avec leurs véhicules, avec des barrières de pneus ou des barricades en bambou, mais cela ne suffit pas à entraver leur progression. L'ambiance a changé à Rangoon depuis hier, lorsque les policiers ont commencé à charger les manifestants pacifiques avec des grenades assourdissantes un peu partout en ville. Il y a eu beaucoup d'arrestations et on voit bien que la tension monte du côté des manifestants qui sont de plus en plus nombreux à porter des casques et des boucliers faits à la main. On ne sait pas vraiment ce qui a décidé la police à commencer à réprimer la contestation à Rangoon après 2 semaines de manifestations presque sans tension. La journée ne fait que commencer, mais on sait déjà qu'elle sera bien différente des journées de contestation précédentes. Rangoon, Juliette Verlin, France Inter.
En Haïti, 200 prisonniers sur les 400 évadés sont toujours recherchés par la police après la spectaculaire évasion jeudi dans une prison de la banlieue de Port-au-Prince. 25 personnes sont mortes, dont le directeur de l'établissement et 6 prisonniers.
Elle est une bande dessinée pour terminer ce journal.
Et une histoire qui plaira à toute la famille, Eric, ça s'appelle Le Grimoire d'Elfie, l'histoire d'une petite fille de 11 ans et de ses 2 sœurs, 3 orphelines qui se servent de leur amour et d'un peu de magie pour avancer. Jacqueline Petros, ça fait du bien.
Elfie et Magda vivent chez leur acariâtre tante Delphine depuis 1 an. Leur mère Mélusine est morte dans l'incendie de leur maison et Magda, 12 ans, a perdu une jambe. L'histoire pourrait être bien triste, mais quand la grande sœur Louette vient les chercher avec un bus anglais transformé en librairie itinérante, pour la fratrie reconstituée, l'aventure commence. Audrey Alouette.
Elfie, avant tout, pour moi et pour Christophe, mon co-scénariste, on voulait que ce soit une histoire de fratrie. Parce que pour moi, 3 sœurs déjà, c'est un super pouvoir à part entière. C'est pas toujours traité dans les histoires pour enfants, et pourtant ça donne une force incroyable. Elles ont eu une enfance riche avec leur maman, pleine de petites traditions familiales, et leur mère a construit avec elles des souvenirs d'enfance qui vont les porter et qui vont les aider et les propulser vers l'adolescence dans un premier temps, et ensuite vers l'âge adulte.
Et avec le fameux grimoire légué à Elfie par leur maman, la magie entre dans leur vie.
Le merveilleux, ça a une utilité qui aujourd'hui est un petit peu méprisée, et c'est bien dommage. Ça réenchante le monde autour de soi, et en particulier quand on s'adresse aux enfants, parce que c'est aussi ce qui nous projette dans l'abstrait, c'est quand même une source de rêve et de construction intime.
L'aventure est menée tambour battant et l'histoire faite de tolérance et d'amour est enrichie par les dessins vifs de Minnie Ludvin et les couleurs lumineuses d'Hélène Lenoble. Une BD de partage extrêmement réussie qui aura une suite et c'est tant mieux.
Le Grimoire d'Elphi, c'est donc à lire aux éditions Bambou.
Merci Antoine Geoffin. Le temps de ce samedi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Ah, avec du soleil dans la plupart des régions, Jean-Michel Golinski.
C'est vrai que ce sera souvent le cas, sauf le long des Pyrénées où le gris va conserver la main. Ensuite, en Auvergne-Rhône-Alpes où le ciel sera souvent variable, ponctué d'averses neigeuses sur les Alpes du Nord à partir de 1000 mètres. Et puis en journée, ce temps à caractère instable va gagner vers la Provence. Le vent de secteur nord sera assez sensible sur l'ensemble du pays, vers 40 km à l'heure jusqu'à 70 dans les domaines du Mistral de la Tramontane, dans des températures cet après-midi à peu près équivalentes à celles d'hier, entre 9 et 12 dans la moitié nord, 12 à 16 au sud, avec pour le détail 9 degrés prévus sur l'Alsace, 10 sur le nord et le Cotentin, 11 à 12 sur le Lyonnais, le Val-de-Loire, la région parisienne et le Finistère, 14 près de la Garonne et 16 degrés pour Ajaccio et Marseille.
Jean-Michel Golinski de Météo France.